premier avis institutionnel consacré à la question du viol, à la question de la tolérance de la société à ce crime qui est sans doute le crime le plus répandu et France, hein, puisqu'on a près de plus de 100 000 viols par an si on inclut les viols sur mineurs. Et cet avis, au-delà de rappeler les chiffres qu'on connaît, en tout cas que celles et ceux qui travaillent sur l'égalité femmes connaissent très bien, mais c'est toujours important de les rappeler pour l'opinion publique, cet avis voulait mettre le focus sur le fait qu'il y a des choses à faire à court terme pour permettre à la fois une diminution de la tolérance de la société au viol et de la diminution de la culture des violeurs, ce qu'on appelle la culture des violeurs dans tout ce qui est mise en scène du viol à des fins publicitaires, dans tout ce qui est culpabilité qui repose encore essentiellement sur les femmes, dans tous les stéréotypes qui peuvent accompagner le viol, pour permettre aussi un meilleur accueil, une meilleure écoute des femmes, parce qu'on dit que les femmes ne dénoncent pas, mais bien souvent elles parlent et elles ne sont pas entendues par leur entourage qui ne sait pas comment réagir, qui face à des violences aussi fortes et souvent qui impliquent dans 9 cas sur 10 des proches, donc ça veut dire que ça bouscule beaucoup aussi l'entourage, donc on n'a pas forcément les bonnes réactions, on n'encourage pas, on ne dit pas forcément à la victime qu'on la croit, qu'il faut qu'elle aille porter plainte, que on sera là pour l'accompagner, etc. C'est aussi les professionnels qui n'ont pas forcément les bonnes réponses ou la bonne écoute parce qu'ils ne sont pas formés, parce que comme tout un chacun, ils sont imprégnés des stéréotypes dont on parlait précédemment. Donc il y a un réel effort de mobilisation de tout un chacun à son niveau. Et dans la vie, en deuxième partie de la vie, on fournit des conseils très pratiques à partir de l'analyse du collectif féministe contre le viol sur que faire quand on est témoin, quand on est proche, que faire quand on est une victime, comment décrypter la stratégie de l'agresseur, quand on est professionnel, comment se former, quels outils mobiliser, etc. Dans cet avis sur l'accueil et l'accompagnement, on dit aussi qu'il faut absolument prendre en charge les soins médicaux et notamment les soins psychotraumatiques des victimes de violences sexuelles. On dit aussi que quand il y a une facilitation de l'accueil des victimes d'urgence, comme c'est le cas à Bordeaux, comme c'est le cas dans 12 centres qui maillent les Pays-Bas, il y a un taux de plainte qui est multiplié par 3. Par exemple, de pouvoir aller aux urgences sans avoir déposé plainte préalablement et pouvoir aussi être pris en charge par les services de médecine légale pour le recueil des preuves très rapide, pour la préservation des preuves. C'est autant d'éléments qui faciliteront le traitement judiciaire ensuite, puis qui mettent aussi la victime en confiance pour s'engager dans un processus judiciaire. Et que ça soit plus à la victime de taper à toutes les portes, aux portes, à la porte du commissariat, à la porte des urgences, à la porte d'une association, à la porte d'un psychologue, mais les professionnels de venir à la victime en urgence de manière coordonnée. Et puis enfin, ce qu'on vise et ce qu'on veut faire reculer, c'est l'impunité des violeurs. Et donc, on veut, avec cet avis, bousculer un petit peu le ministère de la Justice. Je le dis à dessein parce que parfois, avec le ministère de la Justice, avec qui on a eu un dialogue constructif, mais parfois, il y a eu un sentiment de dialogue de sourd avec finalement une réponse qui est « Mais le droit actuel suffit et du coup, le statu quo suffit. » Comment peut-il suffire quand on a encore que 1 à 2% des violeurs qui sont condamnés, quand on a encore des procès qui, sur des cas de viol de mineurs et d'enfants, quand on parle de jeunes de 10 ans, 11 ans, 12 ans, ou plus jeunes, quand on pose encore la question du consentement de tels mineurs, d'enfants avec un adulte. Donc nous, on recommande qu'en deçà de 13 ans, on ait une présomption irréfragable de non-consentement quand il y a acte sexuel entre un majeur et un moins de 13 ans. Parce que on ne peut plus poser la question du consentement d'un enfant dans un acte sexuel avec un majeur. Et puis dans les sujets qui vont venir, on a un sujet dans le prolongement dans le prolongement de ce que je disais sur les femmes précarisées, sur la question de la santé des femmes pauvres. Voilà, pour voir quels sont les obstacles majeurs à l'accès à la santé pour les femmes pauvres et pour améliorer cette question. Membre sortira en librairie à la documentation française, édité à la documentation française, le guide pour la communication publique sans stéréotype de sexe. C'est un guide qu'on a sorti l'an dernier et qui devant on devait le réserver au départ aux organisations publiques qu'on encourageait à être exemplaires en termes de communication sans stéréotype. Et devant l'afflux de demandes de particuliers, on a décidé avec la documentation française de l'éditer dans une seconde édition. Et enfin, la commission stéréotype a beaucoup travaillé sur la question de la formation des enseignants et enseignantes et personnels éducatifs à l'égalité filles-garçons. Maintenant, on a un corpus législatif complet là-dessus qui est très clair.